et le lundi de l'histoire présenté aujourd'hui par Roger Chartier. En 1697, Bayle, dans son dictionnaire historique et critique, écrit « Il n'y a rien de plus connu à toutes sortes de lecteurs que l'histoire d'Alexandre le Grand ». Il juge donc tout à fait inutile d'en donner un nouvel abrégé. 30 ans auparavant, en 1665, Samuel Clarke avait publié à Londres le premier livre consacré à la vie et aux conquêtes d'Alexandre, et l'année suivante, à Paris, Racine publiait sa seconde tragédie, dont la dédicace au roi commençait ainsi. « Voici une seconde entreprise qui n'est pas moins hardie que la première. Je ne me contente pas d'avoir mis à la tête de mon ouvrage le nom d'Alexandre. J'y ajoute encore celui de votre majesté, c'est-à-dire que j'assemble tout ce que le siècle présent et les siècles passés nous peuvent fournir de plus grand. » Le récit biographique écrit par Clarke, le parallèle proposé par Racine et imité par beaucoup d'autres, confirme apparemment la remarque de Bayle. Dès la fin du XVIIe siècle, tout semble avoir été dit sur le roi de Macédoine, conquérant de l'Asie. En fait, il n'en est rien. C'est en effet au temps des Lumières que se multiplient jusqu'à la démesure les ouvrages consacrés à Alexandre. Dans toute l'Europe, ou presque, dans tous les genres, sa présence est obsédante. Ce sont les formes, les raisons d'un tel intérêt que Pierre Briand a voulu décrire et comprendre dans un livre qui, rétrospectivement, donne tort à Bayle. Pour lui, comme pour les auteurs qu'il étudie, les auteurs du XVIIIe siècle et du début du XIXe, l'histoire d'Alexandre demeure incertaine, contradictoire, ouverte à des interprétations et des usages fort différents. Sous le titre « Alexandre des Lumières, fragment d'une histoire européenne », dans cet ouvrage savant, provoquant, passionnant, qui a été publié dans la collection Essais de Gallimard, Pierre Briand entend poser une question fondamentale, montrer que les usages que firent les Lumières du passé alexandrin ont constitué une contribution essentielle aux interrogations posées par l'expansion européenne dans des terres devenues ses colonies. Toute l'œuvre de Pierre Briand, maintenant professeur honoraire au Collège de France, illustre cette volonté de lier étroitement les présents au passé dont ils s'emparent, soit pour les connaître dans ce qu'ils furent, soit pour y projeter leurs propres certitudes ou leurs propres inquiétudes. Pierre Briand, historien de l'Empire achéménide, a beaucoup publié à la fois sur l'Empire perse, en 1996 une histoire de l'Empire perse chez Fayard, en 2003 un livre passionnant sur Darius dans l'ombre d'Alexandre, également publié chez Fayard, et il a publié beaucoup sur le roi de Macédoine qui a conquis cet empire, avec dans la collection Découverte de Gallimard un Alexandre le Grand de la Grèce à l'Inde, ou dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France, un Alexandre le Grand qui peut et doit, me semble-t-il, accompagner la lecture de son nouveau livre, puisque le lecteur qui a peut-être un peu oublié la chronologie ou les épisodes des conquêtes d'Alexandre y trouvera de pertinentes mises au point sur ce que disent aujourd'hui les historiens des questions soulevées dans les textes du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Mais cet après-midi, ce sont eux, les écrivains des Lumières, au sens large que nous allons voir, que nous rencontrerons dans ce dialogue mené avec Pierre Briand. Alors la première question, Pierre Briand, c'est pourquoi ce déplacement de l'histoire à l'historiographie? Qu'est-ce qui vous a mené de ces livres maintenant classiques, traduits sur Alexandre, sur Darius, dans leur réalité historique, à une étude de ceux qui ont été écrits avant vous, au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, sur Alexandre? Pourquoi ce lien?
Parce que je crois depuis longtemps que toute histoire doit être accompagnée d'une réflexion sur les modes de construction des raisonnements interprétatifs, donc ce qu'on appelle en général l'historiographie. Et donc, en particulier, c'est particulièrement vrai dès lors que l'on s'attache à l'histoire d'Alexandre, qui n'est connue que par des sources extrêmement tardives, extrêmement déjà interprétatives, qui fournissent déjà une interprétation aux historiens modernes, et que dès lors, il convient, lorsqu'on écrit au XXe siècle, au XXIe siècle sur Alexandre le Grand, de remonter le fil de l'interprétation, de remonter le fil des recherches, des interrogations, et de voir à quel moment, ou à quel moment au pluriel, bien entendu, à quel moment au pluriel, dans quelles circonstances, se sont imposées successivement ou d'une manière parallèle, telle ou telle interprétation contradictoire. Et donc, ce travail, je l'ai commencé il y a très longtemps, ce travail de réflexion historiographique, et je me suis heurté très, très vite au début de l'année 2000, lorsque j'ai commencé à développer vraiment cet axe de recherche, à une aporie, si je puis dire, à savoir que la thèse généralement admise, c'est que l'histoire d'Alexandre, telle qu'on la connaît aujourd'hui, se met en place à la fin du premier tiers du 19e, lorsque le jeune étudiant berlinois Drogsen publie sa magistrale Histoire d'Alexandre le Grand en allemand, donc en 1833, il a alors 25 ans. Et pour des raisons et selon des modalités sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre maintenant, ce livre a été canonisé comme étant Drogsen aurait été le premier inventeur, le proto-Soretes, le premier inventeur d'Alexandre le Grand. De ce fait, eh bien, il a été admis comme d'allant de soi, sans que jamais personne ne cherche à percer cette carapace, comme l'on de soi, qu'il n'y avait rien avant Drogsen, avant 1833. Et ce postulat s'inscrivait tout à fait dans ce qui est l'historiographie de l'historicisme allemand de ces années-là, à savoir que la science historique naît en Allemagne autour de 1820-1830, et que donc, nécessairement, ce n'est même pas la peine d'aller voir en deçà, puisqu'en deçà, ce ne sont que des broutilles, que des choses absolument sans intérêt, qui n'ont rien de scientifique. Et donc, ceci a bloqué complètement toute recherche sur Alexandre le Grand de avant 1833. Or, je me suis rendu compte très vite, en commençant des cours au Collège de France, j'ai rencontré très vite un homme extrêmement important dont on va seulement reparler, c'est Montesquieu. Je me suis rendu compte très vite que de Montesquieu à Drogsen, sur un siècle, 1748-1833, on retrouvait en fait un portrait d'Alexandre qui était extrêmement ressemblant, dont on sait d'ailleurs que Drogsen a lu Montesquieu, mais qu'il ne cite jamais ses sources. Et donc voilà, je me suis retrouvé là, embarqué dans un projet qui au départ n'était pas le mien, et je me suis retrouvé plongé. Et apparemment, on est dans un tel projet, on ne peut pas faire les choses à moitié. Il faut donc s'immerger totalement dans le 18e siècle. Or, je ne suis pas, moi, un 18e-iste. J'espère l'être devenu un petit peu. Et il a fallu rassembler un corpus qui n'existait pas en tant que tel, et ensuite l'interpréter et proposer justement un Alexandre des Lumières qui vient nécessairement en contrepoint de l'Alexandre de Drogsen.
Mais alors, la définition même des Lumières est une définition large, à la fois chronologique, puisqu'elle va mener jusqu'à Drogsen, et commençant à la fin du XVIIe siècle. Et d'autre part, elle est une définition aussi large en termes des genres que vous avez étudiés, puisque la bibliographie très méticuleuse qui donne la totalité des textes qui apparaissent, certains commentés plus longuement, d'autres plus brièvement dans votre livre, est forte d'à peu près 600 titres. Et on peut dire de ce point de vue que, sauf les genres de la fiction, qu'on peut laisser de côté, tous les genres narratifs, d'une manière ou d'une autre, se sont emparés d'Alexandre.
Absolument. Et donc, j'ai voulu éviter, effectivement, une historiographie qui serait faite uniquement à partir de textes dits majeurs ou canoniques, qui seraient les grands philosophes, Montesquieu, Voltaire, ou Herder en Allemagne, ou d'autres, ou Hegel encore, et éviter aussi d'introduire uniquement ceux qui sont catalogués comme textes historiens ou historiques, parce que même, d'ailleurs, la définition est extrêmement difficile à donner, et en plus, très vite, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, il suffit de lire Montesquieu pour se rendre compte, très vite, je me suis rendu compte qu'en réalité, le personnage d'Alexandre a été introduit ou saisi par des auteurs qui ne récitent pas du tout l'histoire d'Alexandre, mais qui s'intéressent à l'histoire de la géographie, à l'histoire du commerce, à l'histoire des colonies, à l'histoire des rapports avec les autres mondes. Et donc, en fait, je dirais même que l'un des premiers textes qui parle d'Alexandre sur ce plan, c'est un texte qu'on n'attendrait pas, mais qui vient de Cassini, l'illustre astronome, qui, à la fin du XVIIe siècle, écrit un article très intéressant sur les auteurs anciens d'Alexandre qui doivent servir de base documentaire pour ceux qui, comme lui, s'intéressent à l'histoire de l'astronomie, de la cartographie, de la géographie. Et donc, et en plus, alors, qui dit géographie dit commerce, et qui dit commerce dit navigation. Il y a un nombre de textes incroyables sur ce thème, commerce et navigation des anciens, ou commerce et navigation à l'époque moderne, où nécessairement on remonte à l'Antiquité parce qu'on veut trouver des précédents, une continuité du continent entre. Donc c'est un corpus extrêmement, extrêmement vaste auquel j'ai ajouté aussi quelques considérations sur le corpus pictural.
Nous en parlons. Alors, un dernier mot de présentation. Pourquoi le sous-titre fragment au pluriel d'histoire européenne, l'Europe, ça peut être, on le sait aujourd'hui, considéré comme une entité, une unité, une totalité, mais c'est aussi une profonde série de diversités et de différences. Et je crois que vous jouez sur ces deux éléments, et peut-être de là l'idée de fragment.
Oui, c'est-à-dire que je ne prétends pas faire une histoire de l'Europe à travers Alexandre, mais à travers Alexandre, on peut aborder. Moi, entre 17e et début 19e, on peut suivre l'histoire d'une certaine Europe, c'est-à-dire à la fois l'histoire des rapports de l'Europe avec le reste, comme on disait naguère, le reste du monde. Et donc, qui est à la fois une histoire de conquête, une histoire de massacre parfois, une histoire de choc culturel, une histoire de domination. Et en même temps, c'est à la fois que chaque pays européen s'empare également d'Alexandre pour son propre fait, en particulier, c'est très clair en Allemagne, c'est clair aussi en Grèce, où l'on voit à l'époque des Lumières, le personnage d'Alexandre saisi par les Lumières grecques et réintroduit dans ce que je pourrais appeler une sorte de choc mémoriel avec l'histoire des Ottomans, puisque Alexandre va être inscrit dans l'histoire de la libération de la Grèce. Donc il y a là aussi des rapports d'un pays à l'autre, et on voit très bien à travers ce livre, aussi les rapports qui existent entre les savants de différents pays, des échanges d'informations, de livres, les traductions en très très grand nombre de tous ces livres qui circulent en toute l'Europe. Et donc à travers ce personnage d'Alexandre et les traitements historiques auxquels il a donné lieu, on peut effectivement, c'est pourquoi je parle de fragments, car ce n'est pas une histoire culturelle de l'Europe, mais c'est une, j'aurais pu appeler ça, contribution, l'histoire culturelle de l'Europe serait fait un peu plus.
Ce qui est passionnant, c'est le fait que comme vous ne vous attachez pas qu'aux auteurs canoniques, du coup, vous ne vous attachez pas seulement qu'aux livres. Et il y a comme matériau qui va de pair avec cette gamme très ouverte de genres, de discours, une gamme très ouverte de genres de publications, vous l'avez signalé, d'une part, bien entendu, les traductions, les articles dans les périodiques savants qui se multiplient au XVIIIe siècle, les comptes rendus. Et donc, il y a là une base de données absolument considérable sur ce discours des Lumières, et en particulier les Lumières dans leur cœur, puisque, à part le cas grec, sont privilégiés comme on pouvait l'attendre, la France, l'Angleterre et l'Écosse et l'Allemagne. Oui. D'où la réflexion philosophique et où la première forme d'écriture historique et en même temps toutes ces histoires que vous avez mentionnées du commerce, de la navigation, de la géographie sont absolument essentielles. Alors, on va peut-être pouvoir tirer quelques fils dans le livre. Le premier, ce serait sans doute, puisque vous l'avez déjà mentionné, comment s'est constituée une histoire érudite d'Alexandre. Parce que lorsqu'on commence, et là, référence à Bell, référence à Clark, référence à Racine, par lesquels j'ai commencé, on a des gens assez traditionnels dans lesquels on rencontre Alexandre, mais qui n'ont pas grand-chose d'érudit, au sens de la critique érudite, du travail de ceux que l'on appelait les antiquaires. Et pour vous, donc, il faut commencer avec ces gens, parce que c'est ce qui assure sans doute à Bell que Alexandre est partout et on sait tout. Et en fait, on ne sait pas grand-chose lorsque l'on se déplace du côté d'une histoire qui a des critères de preuve ou des critères de documentation plus rigoureux. Et ça, c'est la première mise en place dans votre livre.
Alors, bien entendu, il y a un nom qui apparemment domine tous les autres. C'est le nom du baron de Sainte-Croix, qui est né en 1746 dans le comtat venaissin et qui, en 1769... répond à un concours lancé par l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres sur les sources, au fond, de l'examen critique des anciens historiens d'Alexandre.
C'est le titre de son mémoire.
C'est le titre de son mémoire
à l'Académie.
Et qui remporte la palme et qui va être imprimé d'abord en 1775, puis en 1804, donc il y a un grand, il y a 30 ans d'écart, et entre ces 30 ans d'écart, il y a la Révolution qui passe. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais il ne faudrait pas déplacer l'erreur depuis Droysen à Sainte-Croix, et faire de Sainte-Croix le premier inventeur de tout. Il est le premier à écrire un ouvrage, sur demande d'ailleurs, de l'Académie, sur les sources de l'époque d'Alexandre, c'est absolument fondamental. Seulement, Sainte-Croix lui-même a bénéficié de l'héritage de, je dirais, un siècle de travaux d'érudits, qui sont en général, au XVIIe siècle, surtout les travaux d'édition des textes, de traduction des textes, et donc ces textes classiques qu'on va voir apparaître partout, y compris dans le livre « Diodore de Sicile », « Arien », plus tard, « Quincurse », prioritairement, et des travaux qui ouvrent déjà des réflexions sur les sources, la valeur des sources. Mais c'est effectivement Sainte-Croix qui, le premier, va mettre en place, au fond, un livre, une réflexion sur la valeur relative des sources de l'histoire d'Alexandre, sur comment hiérarchiser les sources de l'histoire d'Alexandre, et qui va donner un point de vue assez ferme sur la question, donnant la priorité à rien sur tous les autres, mais il n'est pas le premier à le faire. Contrairement à ce qu'on dit, déjà les historiens militaires l'avaient déjà fait. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, et j'y insiste tout de même, qu'avant Sainte-Croix, il y a les philosophes. Montesquieu, Voltaire, pour la première fois en 1736, parle d'Alexandre dans les termes très, très élogieux, et puis il va y revenir et consacrer même un chapitre spécial à une critique de Quincurse. Et puis avant, il y a également Montesquieu en 1748 avec l'Esprit des lois, et Montesquieu qui s'est toujours lui aussi beaucoup intéressé à la question des sources, et il a choisi lui aussi Arien. Donc lorsque l'Académie lance ce concours en 1769, il y a déjà un acquis considérable. Mais disons que la publication de l'ouvrage de Sainte-Croix va être un moment très important pour la France, également en Europe, puisqu'il va être traduit, certes, uniquement en anglais en 1793, mais il va être diffusé dans tout le monde érudit de la République des Lettres.
Ce qui fait la différence, c'est cette idée d'examen critique, comme vous le dites. C'est l'idée que là, on emploie des techniques qui sont celles des antiquaires. On ne prétend pas écrire une histoire, encore moins peut-être une réflexion philosophique, une histoire au sens d'une narration qui pourrait avoir un aspect fabuleux ou fictionnel, puisqu'on peut rappeler que l'histoire pouvait désigner aussi bien des récits de faits avérés que des faits qui auraient pu être avérés. Donc il y a cette dimension. Alors ce qui pose d'ailleurs une question pour le lecteur, toute l'attention de Sainte-Croix et des autres formes d'érudition avant ou après lui s'attache à ce corpus de textes que vous venez de citer, avec les deux grandes figures, Quincurse et Arien, accompagnés de Plutarque, et pratiquement n'apparaît jamais d'autres sources que pour d'autres domaines et d'autres territoires les antiquaires utilisent à l'époque et même bien longtemps avant, dès la Renaissance, et qui sont les sources liées à la numismatique, les monnaies, à l'archéologie, les fouilles, les inscriptions. Comment on peut expliquer le fait que ce matériau traditionnel chez les antiquaires n'apparaît pas, par exemple, chez ce baron de Sainte-Croix, qui pourtant est inscrit, comme vous le dites, dans le monde des antiquaires provençaux, de ces érudits et savants qui sont particulièrement forts dans des régions où ces sources existent, pour le monde romain. Alors pourquoi pas pour Alexandre ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est que pour Sainte-Croix, tout d'abord, il restait fidèle à l'examen, au sujet qui avait été posé par l'Académie. Et par ailleurs, lui-même s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est monnaie, à tout ce qui est inscription. Il a publié des choses très intéressantes, très importantes sur telle ou telle inscription grecque qui avait été trouvée en Grèce, mais qui ne concernait pas Alexandre. Donc l'autre raison, il y a presque deux courants différents pour ce qui concerne l'histoire d'Alexandre. Je ne parle pas en général. Il y a le courant des antiquaires qui travaillent dans son coin, si je puis dire, et puis le travail de ceux qui ne sont pas forcément des historiens, mais qui travaillent sur les sources littéraires. Et Alexandre a toujours été considéré comme devant procéder l'histoire d'Alexandre de l'examen des sources littéraires. Il y a aussi une raison objective à cela. C'est tout simplement que les sources archéologiques sur Alexandre sont pratiquement je dirais, inexistante. On a découvert des portraits d'Alexandre dans les fouilles en Italie, par exemple, et, en 1770. Ce sont des portraits d'époque romaine. On a également des monnaies, puisque vous savez que la collecte des monnaies dans les grands cabinets des médailles en France et en toute l'Europe, pardon, est extrêmement active. Et on se connaît même, grâce à un autre plutôt vulgarisateur qui est Chaucer, qui a écrit une traduction commentée d'Arien en 1802, on connaît même le nombre de monnaies d'Alexandre qui sont à ce moment-là, comment dirais-je, conservées au cabinet des médailles à Paris. Il y en a, je crois, 350, si ma mémoire est bonne. Mais il est très difficile d'utiliser ces monnaies dans un sens comme on le fait à l'heure actuelle, car parlant de numismatique, je crois que c'est un petit peu aller au-delà de ce qui est la science des monnaies. Mmh. C'est surtout les monnaies, on les collecte parce qu'elles sont belles et parce qu'il y a des portraits. Et donc, c'est plutôt l'aspect iconographique plus que l'aspect proprement numismatique. Et donc, pour Sainte-Croix, il n'y a pas vraiment de croisement des sources. Il fait seulement appel à deux antiquaires dans l'édition 1804. Il demande à Quatremer de Quincy de faire une étude d'un texte de Diodore qui décrit le char funèbre d'Alexandre avec un dessin reconstitutif. Il demande un autre grand érudit, un antiquaire italien qui est... Visconti, pardon, de faire une publication d'une stèle d'époque romaine qui a été trouvée en Italie, qui montre l'Asie et l'Europe face à face à l'époque de la victoire de Gaugamel. Mais ce sont en fait pour lui des ajouts, des appendices. C'est pas introduit directement dans l'histoire. Et lorsqu'il a été fait avant Sainte-Croix par quelqu'un d'assez bizarre qui a voulu montrer que Quincurre c'était un excellent historien en tirant profit d'une manière assez peu méthodiquement acceptable d'une monnaie d'Alexandre, il était aussitôt rappelé à la raison par le grand antiquaire Baudelot de Derval qui a mis en lumière l'impossibilité de ce croisement de sources.
Alors ce qui est aussi intéressant dans cette perspective-là, développée donc par Sainte-Croix, et comme vous l'avez rappelé dans un ouvrage qui a trois états, un manuscrit, un livre en 75 et puis une réédition qui est trois fois plus longue, 1804, c'est qu'à ce travail, on va dire d'érudition, est lié un jugement moral et politique à l'ancienne, dans un sens. C'était déjà le cas dans les institutions du prince, c'était dans le cas dans les histoires providentielles du XVIIe siècle. Et donc un jugement qui, de plus en plus, d'ailleurs vous le dites, sera négatif. En 1804, sans doute peut-être effet de la Révolution, que le jugement est tout à fait négatif et reprend dans une sorte de tension avec un travail nouveau d'érudition, même s'il y a eu des précédents, des jugements assez classiques sur le fait que Alexandre n'est pas le prince sage que l'on pourrait imaginer, mais est un guerrier ambitieux et un aventurier, injuste et cruel. Donc oui. cette association-là donne son ton au livre de Sainte-Croix et comme vous avez introduit ce nom, son opposition avec ce qui est au cœur de la réflexion de Montesquieu, antérieure au livre de Sainte-Croix, dans l'Esprit des lois, réflexion consacrée à Alexandre.
Oui, alors Sainte-Croix a toujours refusé de faire une histoire d'Alexandre. Il a dit, c'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché en 1810, lors du concours du prix décennal décerné par les académies, par l'Institut plus exactement, et ça lui a été reproché, il a toujours refusé de faire une histoire d'Alexandre, mais pour autant, il a su très bien intégrer, insérer dans son livre un nombre de jugements, de valeurs sur Alexandre. Je dirais deux choses. D'une part, que son jugement de valeur est dû beaucoup à l'influence de quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, on parle dans d'autres circonstances. C'est l'abbé de Mably. L'abbé de Mably qui a répondu à Montesquieu à deux reprises. Dans un livre qui s'appelle « Observations sur les Grecs », dont la première édition paraît en 1749, un an après la première édition de l'Esprit des lois. La deuxième édition en 1766, donc 9 ans, après la deuxième édition de l'Esprit des lois. Dans les deux cas, Mably répond point sur point à Montesquieu. Et cette condamnation d'Alexandre a été reprise intégralement par Sainte-Croix. Chez Sainte-Croix, il y a autre chose encore. C'est le jugement moral n'est pas articulé uniquement sur les vices privés d'Alexandre. Il est articulé sur une condamnation de la politique d'Alexandre. Ça va au-delà. Et en particulier articulé sur une condamnation portée par Sainte-Croix contre les conquêtes coloniales de l'Europe à ce moment-là. Et il y a des passages fameux à la fin de l'esprit, à la fin de l'examen critique 1804, où il condamne aussi bien Alexandre pour sa conduite à l'égard de peuples sauvages, de bons sauvages d'ailleurs, hein, et le méchant conquérant, et reprenant, je pense d'ailleurs, aussi un courant qui avait été porté par l'histoire des deux Indes quelques 20 ou 30 ans auparavant. Donc il y a à la fois condamnation des vices privés d'Alexandre, mais condamnation aussi d'une politique de l'Europe vis-à-vis des pays conquis.
Alors on peut peut-être en venir dans ce retour rétrospectif à ce texte central qui a été lu par ceux qui l'admirent et l'imitent ou ceux qui le s'en différencient, qui sont les chapitres consacrés par Montesquieu dans l'Esprit des lois à Alexandre. Et vous en menez une analyse extrêmement minutieuse. À deux moments apparaît fondamentalement la présence d'Alexandre. Le premier, c'est dans le livre 10 de l'Esprit des lois qui a pour titre « Des lois dans le rapport qu'elles ont avec la force offensive ». Et donc là, on est face à Alexandre le conquérant qui pouvait être le thème des dénonciations d'une cruauté, d'une folie, d'une déraison dans une conquête sans fin, sans but, sans organisation. Et Montesquieu s'oppose tout à fait à cette version-là. D'une part parce que, vous l'appelez, son Alexandre est un Alexandre de raison, Montesquieu écrit. Non seulement le projet, c'était ça, ce grand projet de conquête de l'Asie mineure, puis ensuite de l'Asie jusqu'à l'Indus. Le projet était sage, mais il fut sagement exécuté. Alexandre, dans la rapidité de ses actions, dans le feu de ses passions même, avait, si j'ose me servir de ce terme, une saillie de raison qui le conduisait, et que ceux qui ont voulu faire un roman de son histoire et qui avaient l'esprit plus gâté que lui n'ont pu nous dérober. Alors là, vous insistez beaucoup sur cette idée d'une rationalité de la conquête que Montesquieu met dans le projet d'Alexandre est contre les romans, qui pouvaient être une allusion au roman d'Alexandre, un vieux texte, mais plus encore aux historiens ou à des histoires d'Alexandre qui en narraient les péripéties, mais comme si c'était l'expression d'une folie et d'une déraison.
Voilà, il semble qu'en l'occurrence, il vise Quincurs. Mais effectivement, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Il est le premier, vraiment. Enfin, Voltaire a aussi parlé a montré qu'il y avait un plan raisonnable de conquête de l'ensemble de l'Empire perse, suivi par Linguet d'ailleurs. Mais la réflexion de Montesquieu est d'ordre, je dirais, presque philosophique, de la science politique, de la philosophique. Et il va donner d'Alexandre l'image d'un conquérant qui a un plan, et un plan raisonnable. Et non pas un plan qui aurait été inventé au fur et à mesure en fonction d'une passion qui tout d'un coup l'aurait porté ici ou là ou dans ses... Non, il a un plan depuis le début, un plan raisonnable. Et en cela, d'ailleurs, Montesquieu, si je puis dire, comble une lacune totale, puisque aucun historien ancien, aucun auteur ancien ne donne le moindre éclaircissement, apparemment il n'en savait rien, sur ce qu'aurait pu être, ce qu'a dû être un plan ou un dessin d'Alexandre lorsqu'il quitte la Macédoine pour l'Asie mineure. À quoi pense-t-il? Quel est son projet? On n'en sait rien, mis à part la guerre de représailles. Et donc Alexandre, lui, Montesquieu, lui donne un contenu réel à ce qui est un dessin, mais global. Ce n'est pas un dessin uniquement de conquérant, c'est un dessin d'organisation de la conquête. On a un dessin commercial et un dessin en plus qui, fondamentalement, a pour but de mettre en communication tous les peuples de l'Empire, y compris aussi les peuples de l'Empire et l'Europe, bien sûr, via des communications qui sont des communications commerciales, mais également une communication beaucoup plus large, une communication entre les peuples, une communication, je dirais, de culture. Et donc, il est le premier à avoir donné cette image extrêmement cohérente. Quand je dis cohérente, je parle de cohérence interne. Peu importe le jugement qu'on porte sur la vie historique d'Alexandre, de Montesquieu, une cohérence interne qu'aucun historien n'avait donné jusqu'ici à Alexandre, Voilà, donc c'est ça qui est complètement nouveau avec Montesquieu.
Restons un court instant avec Montesquieu avant la fin de cette première séquence de notre dialogue, parce que, comme vous l'avez dit, pour Montesquieu, la finalité de cette organisation rationnelle est celle-ci. Il forma le dessein d'unir les Indes avec l'Occident par un commerce maritime, comme il les avait unis par des colonies qu'il avait établies dans les terres. Donc un projet qui est cette mise en rapport avec le sens que vous soulignez du mot « commerce » au XVIIIe siècle, et non seulement le commerce des biens, mais la correspondance, la dépendance réciproque. Et d'autre part, ce qu'il reconnaît, c'est un art de gouverner. Là, nous sommes devant une fin de mise en relation par le commerce, mais aussi un art de gouverner qui va faire que, comme il le pensait, les peuples soumis avaient le plus grand respect ou le plus grand amour pour leurs conquérants. Pourquoi ? Il ne laissa pas seulement aux peuples vaincus leurs mœurs, il leur laissa encore leurs lois civiles, et souvent même les rois et les gouverneurs qu'il avait trouvés. Il mettait les Macédoniens à la tête des troupes et les gens du pays à la tête du gouvernement, aimant mieux courir le risque de quelque infidélité particulière, ce qui lui arriva quelquefois, que d'une révolte générale. Il respecta les traditions anciennes et tous les monuments de la gloire ou de la vanité des peuples. Donc ces deux éléments sont aussi pour Montesquieu absolument essentiels et s'opposaient à la légende noire, si j'ose dire, d'Alexandre.
Il y a un mot fondamental dans tout le passage de Montesquieu, c'est le terme de conservation. La conquête en soi n'a aucun sens. La conquête n'a de sens que si elle vise à la conservation. Et la conservation, c'est tout ça. Ce n'est pas simplement la conservation militaire, c'est-à-dire mettre des garnisons ici ou là pour maintenir les peuples dans l'obéissance. C'est surtout créer les conditions d'une collaboration intime entre ceux qui ont conquis et ceux qui ont été conquis, et à terme d'effacer les traces impures de la conquête. Et donc, l'Alexandre de Montesquieu, peut-être qu'on y reviendra encore, mais l'Alexandre de Montesquieu, évidemment, qui est une création complètement personnelle de Montesquieu, s'oppose totalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut comprendre que Montesquieu a exalté un conquérant comme Alexandre, s'oppose totalement à ce qui est en général la règle des rois ou des conquérants de l'Europe à ce moment-là, qui se vouent à la guerre, aux guerres multiples, etc., à la destruction. Au contraire, il met en contrepoint une espèce de modèle, inaccessible d'ailleurs, qui est un Alexandre complètement recréé par Montesquieu, même si pour cela, Montesquieu se fonde sur des sources qui, elles-mêmes, anciennes, qui elles-mêmes avaient présenté cette image d'Alexandre, en particulier Plutarque et Arrien.
L'émission de cet après-midi est consacrée au livre de Pierre Briand, Alexandre des Lumières, fragment d'histoire européenne, publié chez Gallimard dans la collection des essais. Et c'est avec Pierre Briand, dans un dialogue, que nous présentons les thèses fondamentales. Et une de ces thèses fondamentales, Pierre Briand, que nous venons de voir avec Montesquieu, c'est une perception, une vision d'Alexandre comme celui qui a désenclavé le monde pour la première fois en mettant en rapport, grâce au commerce et aux colonies, le monde de l'Asie, Asie mineure, monde indien, avec l'Occident. Alors vous avez rappelé que, s'appuyant sur des sources, Montesquieu construit un raisonnement idéal de cette figure d'Alexandre, préférant évidemment les sources comme Arrien ou Plutarque, mais il y a aussi une autre source qui est une source bien française, celle-là, et qui était un mémoire un peu oublié, mais fondamental, publié par Huet, d'abord écrit pour Colbert, ensuite publié en 1716, « Histoire du commerce et de la navigation des anciens », et qui est le premier à mettre au cœur d'une analyse de la conquête d'Alexandre, non pas son projet fou, mais sa rationalité commerciale.
Absolument, et je crois être le premier, je ne m'en flatte pas, mais je l'indique d'un mot quand même, à introduire Huet dans une réflexion historiographique sur Alexandre. Montesquieu lui-même cite Huet dans ses brouillons, il le cite également dans une ou deux de ses pensées, il le cite dans ses brouillons, il ne le recite pas directement dans l'Esprit des lois, mais il a énormément utilisé, on le voit très bien. Huet alors est un personnage étonnant, il faut en dire un mot quand même très brièvement, c'est un érudit parmi les érudits du XVIIe siècle, pardon, qui a eu des fonctions très importantes, de vice-précepteur du dauphin, co-directeur de la collection à 12 hommes Delphini, évêque d'Avranches, etc. Et en 1667, Huet est présenté à Colbert. Et Colbert, comme il l'a fait très très souvent, pour déterminer la politique qu'il allait mener, dans tel ou tel domaine d'ailleurs, va demander l'avis, au fond, qu'est-ce que faisaient les anciens dans ce domaine-là. Il demande à Huet de lui fournir un rapport qui s'appelle donc Histoire la sommaire de la navigation et du commerce des anciens, qui est toujours disponible à la BNF, que j'ai consulté, et qui fut publié alors 50 ans plus tard, alors que Huet était très, très âgé, en 1716. Et dans ce livre, Huet consacre une partie très, très importante à Alexandre le Grand, qu'il présente comme celui qui a révolutionné, qui a apporté la révolution dans l'histoire du commerce, en particulier en ouvrant l'Inde au commerce occidental, ou l'Europe, si vous voulez, en s'appuyant en particulier sur la remontée de la flotte de Néarque de Golfe Persique, la destruction des barrages que, selon lui, les Perses avaient mis à l'entrée de Tigre de l'Euphrate, et enfin, et reformer cette grande voie de commerce qui, partant de l'Inde, remonte le Golfe Persique, remonte le Tigre et l'Euphrate, et va communiquer avec Alexandrie, et d'Alexandrie irriguer l'ensemble de l'Occident. C'est là, c'est avec Huet, alors que Huet n'a pas d'intérêt particulier pour Alexandre, et même ce rapport qu'on lui demande, ça l'ennuie beaucoup, parce qu'il doit lui terminer un livre sur Origène, qui, croyez-moi, l'intéresse beaucoup plus qu'Alexandre le Grand. Et ce livre, publié en 1716, est traduit dans toutes les langues de l'Europe en quelques années, l'année suivante en Angleterre. Et la traduction anglaise étant dédicacée aux dirigeants de l'East India Company. Et donc ce livre va prendre une importance considérable. Il va être utilisé par Montesquieu dans le livre 21 de l'Esprit des lois, où c'est le seul livre qui est fondé sur une narration continue de l'histoire du commerce depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, contemporaine pour Montesquieu, et ce découpage chronologique est en grande partie hérité de Huet, même si Montesquieu donne sa propre interprétation.
Une phrase de Huet, « Il changea, parlant d'Alexandre, pour ainsi dire, la face du monde, et fit une grande révolution dans les affaires du commerce. » Alors cette vision aussi du commerce, vous l'avez retrouvée plus tard, fin du XVIIIe siècle, dans la plupart des auteurs anglais qui s'intéressent à ce moment-là à Montesquieu, dans le contexte évidemment des expéditions ou de la colonisation anglaise. Et les auteurs que vous étudiez ont les mêmes intérêts, géographie, historique, cartographie et centralité du rôle d'Alexandre pour ce désenclavement du monde.
Absolument. Que l'on prenne en Écosse William Robertson, qui est un historien tellement connu du 18e, historien de l'Amérique essentiellement, mais qui même dans l'histoire de l'Amérique a introduit dans l'introduction Alexandre en faisant l'histoire des conquêtes européennes ou des découvertes européennes, et puis qui revient en 1791 dans ce qui fut son dernier ouvrage sur l'Inde, mais aussi en Écosse, John Gillis, l'historien bien connu. Et vous avez aussi en Angleterre, alors le grand géographe qui a travaillé lui-même pour la Compagnie des Indes, qui est James Rennell. Et enfin, à la fin du siècle, 1797, un homme qui a un rôle important dans le royaume et également au Collège de Westminster, qui est William Vincent, qui a écrit un livre qui va avoir une destinée prodigieuse en Europe, qui s'appelle en anglais « The Voyage of Néarque », traduit en 1800, trois ans plus tard, en français, sous le titre « Le voyage de Néarque ».
Néarque étant un de ses amiraux ou navigateurs nommés par Alexandre pour faire cette opération de remontée
du Golfe Persique. Et donc Néarque et Alexandre se retrouvent une fois au milieu du Golfe, et puis l'autre fois, près de Suse, ils se font... Bon. Et donc, le voyage de Néarque, qu'on n'a pas le récit lui-même de Néarque, parce que toutes les sources primaires sont perdues, mais le voyage de Néarque, le récit qu'il avait donné dans l'Antiquité, a été repris, paraphrasé, cité en long, en large et en travers, par Arrien, dans un autre petit livre qui fait complément de l'Anabase d'Alexandre, qui s'appelle seulement l'Inde.
Et là, on parle de textes qui sont du 1er siècle après Jésus-Christ, deuxième.
Non, c'est deuxième. Arien, c'est deuxième siècle. Deuxième siècle après Jésus-Christ, qui a utilisé les sources primaires qui nous sont à nous fermées ou inconnues directement. Et alors, ce voyage de Néarque va être considéré comme par Vincent, William Vincent, comme la première manifestation de la domination européenne dans l'Inde, va être considéré également comme le précédent de ce commerce de l'Inde qui va se développer, alors avec les Portugais, disons William Vincent nécessairement n'en parle pas beaucoup, mais surtout avec les Anglais. Et d'ailleurs, William Vincent va s'appuyer sur des sources de la Compagnie des Indes, puisque la Compagnie des Indes avait envoyé des escadres à la reconnaissance de côtes très très mal connues du golfe Persique. Et c'est en croisant les récits ou les relations justement de ces premiers voyageurs envoyés par la Compagnie des Indes et à rien que Vincent va arriver à faire la reconstitution du golfe Persique. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement la géographie historique que l'interprétation de Vincent dans la continuité, dans un continuum de l'histoire européenne. Et d'ailleurs, Vincent va jusqu'à dire que même à titre lointain, even remote en anglais, même à titre lointain, la conquête, l'expédition d'Alexandre en Inde est au fond à l'origine de la conquête britannique.
Et du coup, le lien, comme chez Montesquieu, se fait entre ce désenclavement, le commerce et la civilisation.
Absolument.
Et donc, ce processus de civilisation nous conduit finalement à un moment important dans votre livre, c'est-à-dire que l'on est soit face à une opposition. On peut opposer un Alexandre conquérant à un Alexandre civilisateur, un Alexandre démesuré et déraisonnable à un Alexandre qui est un être de raison. Et donc, on peut avoir des jeux comme cela d'opposition terme à terme. On les a vus entre auteurs, parfois dans les rééditions d'une même œuvre, le portrait change. Et puis, vous montrez aussi que parfois, il y aura un effort pour créer une sorte de personnage ambivalent et en quelque sorte de lier Sainte-Croix, condamnant la déraison politique et morale d'Alexandre, avec Montesquieu louant sa rationalité de gouvernement et de commerce. Et vous jouez sur ces deux figures possibles d'une dualité, l'une qui va les opposer, les deux termes de la dualité, et l'autre qui va essayer de les concilier.
Voilà. Et donc, on le voit très bien, par exemple, d'abord dans certains auteurs eux-mêmes, je vais y revenir, on le voit très bien en France, par exemple, entre 1800 et 1830, on voit très bien qu'il y a deux courants parallèles qui, eux, s'opposent vraiment, mais qui sont parallèles. Le courant que j'appelle Bossuet, Mably, Sainte-Croix, qui reprend du poil de la bête, si je puis dire, après la Révolution, sous l'Empire, et plus encore à l'époque de la Restauration. Et on voit très bien qu'il y a tout un courant qui s'oppose complètement, qu'on retrouve chez Chateaubriand, qu'on retrouve chez Benjamin Constant et chez bien d'autres, jusqu'à Thiers, si je vais jusqu'à l'histoire du consulat et de l'Empire. Et donc c'est une opposition irréductible à Alexandre, à la conquête meurtrière, etc. Et chez Constant, il y a une très très belle page dans Constant là-dessus. Et puis un deuxième courant qui, lui, est l'héritage du courant de Montesquieu et des épigones britanniques, en particulier de William Vincent, car la traduction en français de William Vincent en 1800 a eu un impact considérable. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu aussi des tentatives de traduction en allemand qui ont échoué. Et ce deuxième courant, au contraire, met au premier plan l'importance de l'ouverture du commerce à la civilisation. Il y a là aussi, d'ailleurs, dans ce courant, une assimilation parfois implicite, parfois explicite, avec la grande aventure napoléonienne qui explique de ce fait même également qu'en Allemagne, la conquête d'Alexandre soit condamnée par tous ceux qui ont souffert de la conquête napoléonienne et qui aspirent à certainement à l'indépendance, parfois à l'unité allemande. Et donc ces deux personnages restent là. Ils sont parfois développés presque parallèlement, ce qui paraît de manière contradictoire, par le même auteur. Je pense par exemple au chevalier de Jaucourt qui a écrit de très nombreux articles dans l'encyclopédie et qui est partagé, qui parfois exalte évidemment le rôle civilisateur d'Alexandre, mais souvent condamne les conquêtes d'Alexandre et même parfois se distingue de celui qui fut son inspirateur premier, à savoir Montesquieu. Et il y a également, on voit très bien, cette difficulté à appréhender le personnage dans toute sa complexité. On le voit également très bien dans d'autres œuvres. Par exemple, dans l'histoire des deux Indes, sur la philosophie des deux Indes, de la première édition à la deuxième édition, ou même à travers chaque édition, on voit très bien qu'il y a des évolutions parce que les chapitres n'ont jamais été coordonnés d'un auteur à l'autre. Il y a donc beaucoup de... Les auteurs sont placés devant une difficulté qui surmonte d'une manière plus ou moins habile.
Vous le montrez aussi, alors il faut le signaler parce que ce livre est magnifiquement illustré, y compris avec des reproductions en couleur des tableaux. Vous montrez comment, même dans la peinture, non seulement comme on pouvait l'attendre, il y a cet Alexandre héroïque, guerrier, alors pour le pire ou le meilleur, mais il y a aussi toute une iconographie qui se fonde sur une autre perspective et qui est la perspective pacifique, humaniste, on pourrait dire, d'Alexandre. En particulier, vous donnez une série magnifique d'un thème, la visite au tombeau de Cyrus, donc le respect pour le conquérant, pour celui qui avait conquis avant lui, donc pour l'ennemi mort. Et puis vous le montrez aussi avec deux citations, l'une de Bonaparte, assez inattendue. L'ambition, ce désir immodéré de contenter l'orgueil ou l'intempérance qui n'est jamais satisfait, qui mène Alexandre de Thèbes en Perse, du Granique à Issus, d'Issus à Arbel, le nom des batailles gagnées, de là dans l'Inde, l'ambition qui lui fait conquérir et ravager le monde pour ne pas la satisfaire, de même le feu l'embrase, dans son délire, il ne sait plus quel cours lui donner, il s'agite, il s'égare, Alexandre se croit un dieu, il se croit fils de Jupiter, il veut le faire croire aux autres. C'était un mémoire qu'il avait envoyé Bonaparte à un concours ouvert par l'Académie de Lyon. Assez paradoxal par rapport à ce délire du conquérant. Mais Napoléon, lui, dans les mémoires de Sainte-Hélène, a une autre vision. Il avait eu l'art de se faire aimer des peuples vaincus. Et donc, on voit cette permanente ambivalence du personnage. Et vous employez un mot plusieurs fois qui est la plasticité. Alors, est-ce que cette plasticité d'Alexandre, qui peut à la fois être un prince sage ou un conquérant aventurier, qui peut aussi être la projection de la déraison ou de la raison que l'auteur lui imagine, est-ce qu'elle n'est pas liée directement à un point qu'on vous avait évoqué au début, c'est-à-dire le fait que les sources anciennes, qui ont été traduites, accessibles dès le XVIIe siècle, laissent un grand inconnu quant aux motivations d'Alexandre, et que cette plasticité, dans ce cas-là, elle est plus grande que dans d'autres cas historiques?
Cette plasticité existe déjà dans l'Antiquité, parce que toute l'historiographie d'Alexandre de l'époque romaine est déjà fondée sur cette opposition, ou cette bivalence d'Alexandre, les uns comme Sénèque par exemple, qui va être l'inspirateur de beaucoup de contempteurs d'Alexandre, condamnant Alexandre, d'autres au contraire louant Alexandre, comme Arien aussi à l'époque romaine. C'est vrai que d'une certaine manière, les lacunes des sources anciennes qui jamais ne donnent vraiment une analyse vraiment dans sa globalité un quelconque projet d'Alexandre, laisse la porte ouverte à tout cela. Mais enfin, ce qui est fondamental, c'est peut-être aussi c'est que ce qu'on appelle les historiens, c'est toujours difficile d'employer un terme qui est lié à une certaine méthode et qui n'est pas celle de ceux dont je parle, dont nous parlons aujourd'hui. Donc les historiens, ceux qui en tout cas étudient l'histoire d'Alexandre, sont obnubilés aussi par les résonances du présent. Et donc, c'est toujours à la lumière du présent qu'ils analysent le passé. Et donc, effectivement, selon leur position par rapport à la royauté, par rapport à la guerre, par rapport à la conquête, par les rapports avec les autres mondes, etc., donc par rapport à l'histoire contemporaine, Alexandre peut être loué ou peut être dénoncé exactement dans... Donc, c'est pas tellement... Je ne dirais pas que c'est lié directement aux sources, parce que quelles que soient les sources, au fond, les questions elles sont posées par l'historien. Je crois que c'est lié fondamentalement un présentisme, si je puis employer ce terme que je n'ai pas inventé, un présentisme exacerbé dans toutes les productions sur Alexandre.
Mais alors du coup, il y a deux formes de discours qui sont l'illustration parfaite de cette perspective. C'est d'une part les parallèles. On avait commencé par un parallèle entre Louis XIV et Alexandre. Et ce dont d'autre part, les analogies. Et pour dire un mot de chapitres nombreux et qu'on a un peu négligé jusqu'ici dans notre dialogue, c'est-à-dire les chapitres consacrés à l'Alexandre allemand, ou l'Alexandre des Allemagnes, ce présentisme est très puissant. Vous montrez comment que dans l'historiographie, là encore, enfin, ou les historiens, ou les philosophes allemands qui s'attachent à Alexandre, il y a non seulement une revendication d'érudition qu'on pouvait attendre, mais il y a aussi une immédiate projection du présent de l'Allemagne.
Immédiat. En particulier, je pense, un historien comme Christian Gottlob Heyne, qui fut le grand maître de la grande école de Göttingen, qui jusqu'à la création de l'Université de Berlin en 1810 fut le grand centre intellectuel de l'Allemagne et érudit de l'Allemagne. Heyne publie en 1805, un très long texte sur Alexandre à l'Université de Göttingen, où il dénonce Alexandre d'une manière extraordinaire. Il est très clair que d'une part, il est inspiré par la lecture qu'il vient de faire de Sainte-Croix, il vient de faire un compte-rendu dans la revue de Göttingen, mais en même temps, il est marqué complètement par le contexte politique. D'une part, parce que la guerre est haïe en Allemagne depuis, on va dire, la fin de la guerre de 7 ans, et après par les guerres napoléoniennes. Et on se souvient également des invasions de Louis XIV. Hein. Et donc, l'Alexandre qu'il va présenter est un Alexandre qui est dénoncé comme tel en raison également du contexte politique. Un autre, c'est Niebuhr, qui, lui, dans ses cours publics qu'il donne à Bonn entre 1825 et 1830, est un dénonciateur féroce d'Alexandre et de Philippe, d'ailleurs, d'Alexandre. Et car, pour aller sous Alexandre, c'est même pas sous Alexandre, paraît Napoléon, mais il le dit lui-même, d'ailleurs. C'est explicite chez lui. Il condamne Alexandre comme il condamne Napoléon. Et c'est la raison pour laquelle il condamne si fortement la politique qu'avait louée Montesquieu vis-à-vis des vaincus. Parce que pour lui, c'est un contresens qu'il faut. Et donc, il pense à l'Allemagne, il pense à l'unité allemande. Et donc, il veut absolument. C'est au regard de ses préoccupations allemandes qu'il juge complètement Alexandre. Il en sera de même, d'ailleurs, de Droysen en 1830, très largement de même de Droysen en 1833.
On trouve dans votre livre de noms très nombreux de ces parallèles qui permettent, qui sont rendus possibles par la plasticité que l'on évoquait. Alexandre et son père, Philippe, oui. Alexandre et César. Le premier chapitre de Montesquieu consacré à Alexandre commence par un parallèle avec Charles XII. Oui. Donc le parallèle positif ou négatif avec Napoléon est une donnée fondamentale. Et alors dans l'analogie, ce serait plutôt la fin du livre où vous posez une réflexion qui est liée aux années 1800-1830, l'analogie fondamentale qui va donner en quelque sorte un fond commun de certitude à ces différences nationales dans le traitement d'Alexandre, anglaise, français, allemand, c'est l'idée que finalement il y a en Orient, dans l'Asie, une immobilité essentielle et que du coup, que les Perses d'antan peuvent être identifiés avec les Ottomans d'aujourd'hui, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, et que tout le raisonnement autour de les expéditions, la colonisation, les Français en Égypte, les Russes dans l'Asie mineure, les Anglais en Inde, vont se fonder sur cette idée largement partagée qu'en lisant l'histoire d'Alexandre dans son rapport aux Perses, on peut déchiffrer une histoire en train de se faire ou à venir entre les pays d'Europe et le monde asiatique.
Oui, et en analysant la politique européenne vis-à-vis d'Ottomans, on analyse en même temps et on interprète une histoire d'Alexandre. Les deux se nourrissent l'une de l'autre. Et effectivement, je vous remercie d'aborder ce point, parce que l'historiographie d'Alexandre ne se conçoit pas sans faire parallèlement une historiographie de l'histoire de l'Empire perse et de ses analogies. Cette analogie a été érigée en principe un peu par un autre historien allemand qui est Ehren, qui est un prédécesseur de de Droysen en Allemagne. Et en 1843, je crois, dans une lettre d'un historien à Ranke, il parle des apports de Ehren et il dit, en principe, j'ai appris chez Ehren la valeur méthodologique de l'analogie, et une analogie qui lui paraît la plus certaine, c'est l'analogie qui on peut poser entre l'Empire ottoman d'aujourd'hui et l'Empire perse de l'Antiquité. L'Empire perse, c'est-à-dire celui qui a été vaincu par Alexandre. Et donc, Alexandre, de ce fait même, devient le premier Européen. Et tout ça va se consolider, va s'exprimer encore plus au moment de la lutte pour l'indépendance de la Grèce. Et à ce moment-là, l'analogie va être extrêmement forte. Elle va être utilisée également par les Lumières grecques, par les Lumières également, par toute la littérature européenne. Et donc, on va voir que dans les ouvrages historiques même, dont on a déjà parlé, déjà dès 1767, lorsque, après la première défaite des Ottomans devant les Russes, on va voir se dessiner une théorie, une représentation qui est la suivante. Alexandre a vaincu les Perses d'Antiquité. Il y a une analogie entre les Perses et les Ottomans. Donc, nous allons vaincre les Ottomans très rapidement. Cette victoire est inéluctable, puisque l'homme est malade. Et donc, on voit très bien, très clairement, et Ehren, par exemple, pour ne citer que lui, à un moment donné, dit... Nous avons, après avoir décrit l'Empire perse décadent, immobile dans l'Antiquité, il dit, nous avons devant nous, à l'heure actuelle, un empire de la même sorte, donc l'Empire ottoman, et donc nous pouvons espérer que les trois victoires que nous avons vues se dérouler à l'époque d'Alexandre, eh bien, elles vont se répéter très bientôt, l'Europe face aux Ottomans.
L'homme malade étant cette idée que ces empires orientaux sont des empires despotiques qui donc sont minés par le luxe et la luxure, et que donc, du coup, ils sont vulnérables et fragiles. Alors, il nous reste quelques minutes, mais une dernière opposition qui clôt votre livre, c'est la question qui est posée au XVIIIe siècle et au début du XIXe, et qui l'est peut-être encore aujourd'hui. Est-ce qu'Alexandre, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin de l'histoire grecque, la fin de l'histoire de la cité, de la liberté, de la rhétorique, ou est-ce que c'est le commencement d'une autre histoire, c'est-à-dire l'histoire de la colonisation identifiée à un processus de civilisation et, pour beaucoup des auteurs, identifié à un processus de christianisation.
Oui, alors, pour revenir d'un mot à Droysen, dont on a parlé au début, Droysen est présenté comme celui qui a le premier inventé le concept d'un monde nouveau, d'un monde hellénistique, non plus un monde de décadence, mais un monde nouveau, complètement différent, qui serait né de la fusion de l'Orient et de l'Occident et qui a mené nécessairement, à la naissance du christianisme. Et ce que je voudrais essayer de dire, c'est que cette idée, je ne veux pas l'enlever à Droysen, mais disons que là encore, il y a des continuités avec des réflexions. C'est vrai que majoritairement, les auteurs du XVIIIe considèrent que finalement, Alexandre a échoué. C'est un échec, puisque l'Empire est défait. Mais en même temps, il y a des réflexions sur ce qui se passe après. Et on voit par exemple que cette idée de la conquête d'Alexandre comme menant nécessairement au christianisme est déjà présenté par Voltaire dans sa dernière réflexion qui est la Bible enfin expliquée, et elle, on la voit déjà développée aussi dans des auteurs du début du 19e que je cite dans mon livre, et on voit très bien déjà cette idée d'Alexandre à la tête d'une mission. Une mission presque de pré-christianisation de l'Orient. Et donc, on peut dire que, si je veux résumer en deux mots, c'est-à-dire qu'effectivement, grosso modo, les auteurs considèrent qu'Alexandre marque la fin de la grande idée de la Grèce, d'où le siècle d'Alexandre qui en fait renvoie à une époque antérieure. Mais en même temps, on voit très bien chez certains auteurs qu'il y a cette conscience de la création d'un monde nouveau qui va déboucher sur le christianisme.
Du coup, l'histoire d'Alexandre prend place dans une longue durée qui va se poursuivre avec les grandes découvertes, les colonisations portugaises, espagnoles, françaises, anglaises, et qui amènera finalement à cette homologie ou analogie entre l'Empire macédonien à la conquête du monde et puis les puissances coloniales européennes qui, elles aussi, prenant un relais historique, vont l'assurer. Oh, rappelle que l'émission d'aujourd'hui était consacrée au livre de Pierre Briand, Alexandre des Lumières, fragments d'histoire européenne, un livre publié dans la collection NRF Essai chez Gallimard, et nous l'avons présenté en compagnie de son auteur. Les lundis de l'histoire étaient aujourd'hui proposés par Roger Chartier. La prise de son a été assurée par Stéphane Desmonts, la réalisation par Luc-Jean Reynaud. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire vous seront présentés par Philippe Levillain. Et dans un instant, comme chaque lundi, à cette heure-là, c'est pas la peine de crier, c'est une émission de Marie Richeux.